Bonjour à toutes et à tous. Je suis flattée ici de pouvoir parler pour le bassin d'Arcachon, premier centre de sœurs de France, en tant que femme ostréicultrice. Les femmes jouent un rôle important dans notre profession, mais malheureusement, elles ne sont pas assez représentées dans toutes les institutions professionnelles. Donc, il est important qu'elles prennent leur place pour défendre un mode de production d'huîtres durable, respectueux pour les hommes, pour les femmes et pour l'environnement. Je suis également fière de parler au nom de l'association ostréiculteurs traditionnels pour donner notre vision du métier, évidemment opposée à celle exposée par l'intervenant précédent, M. Éric Marissal. C'est un métier, notre métier de passion, que nous aimons et que nous pratiquons tous les jours en tant que paysans et paysannes de la mer. Mais je veux revenir sur le bassin d'Arcachon. Le bassin, bassin naisseur, berceau historique des huîtres naturelles de France. Pendant des siècles, les huîtres sauvages furent ramassées sur des gisements naturels. L'ostréiculture arcachonnaise est née pendant la deuxième moitié du XIXe siècle avec la technique du captage du naissin sur tuiles chaulées. Pendant des années, le bassin a été le premier centre de France pour la production du naissin naturel. En effet, il offre toutes les conditions favorables à la reproduction non dirigée de l'huître dans le milieu même. La reproduction de l'huître a lieu tous les ans pendant l'été, après la maturation sexuelle qui a lieu pendant le printemps et maintenant le début de l'été, les huîtres expulsent dans l'eau leurs cellules reproductrices, mâles ou femelles. Après la fécondation, les œufs deviennent des larves qui sont soumises au mouvement des courants et des marées. Cette phase, appelée larvaire, dure 2 à 3 semaines. À la fin de cette phase, l'animal qui mesure 1/3 de millimètre est prêt à s'accrocher sur un support favorable. Cet animal nouvellement fixé se nomme alors naissin. Et c'est là que commence notre métier en tant qu'ostréiculteur et ostréicultrice. Depuis une vingtaine d'années, un nouveau métier, écloseur, a émergé. Cette profession croit maîtriser la reproduction de l'huître en dehors de son milieu naturel et l'élève à terre dans des bacs alimentés en eau de mer. Les larves ne connaissent pas, comme celles issues du captage en milieu naturel, les conditions du milieu extérieur, ni la sélection naturelle. Elles ne connaissent pas non plus le collecteur, puisque le captage s'effectue sur des micro-fraisures afin de fournir à l'acheteur un produit une à une. Elles sont en milieu confiné, présélectionnées pour une croissance rapide, nourries artificiellement avec des micro-algues enrichies en vitamines et minéraux, traitées aux antibiotiques, tamisées pour éliminer les moins poussantes. L'huître, au départ, produit sauvage, naturel, ramassé pendant quelques milliers d'années, et depuis la technique du captage, un coquillage cultivé. L'histoire de ce coquillage est intimement liée à l'aventure de notre métier. L'huître et l'ostréiculture sont attachées l'une à l'autre. Leurs évolutions sont simultanées. Pour ceux et celles qui pratiquent notre métier, l'huître a une tradition, même si ce passé est récent. Jusqu'à il y a peu, reproduction et croissance demeuraient naturelles et indépendantes de toute intervention humaine et de tout apport de substances artificielles. Avec l'offre de naissins sélectionnés, les écloseries ont fondamentalement changé le paysage de l'ostréiculture. Triploïde et diploïde, une sélection est faite, et le mode de reproduction et d'élevage des premières semaines n'a plus grand-chose à voir avec la reproduction en milieu naturel, où les pontes de cellules mâles et femelles se rencontrent au gré des courants, et où la larve, prête à se fixer, va chercher son collecteur. L'huître triploïde, du fait de son matériel génétique modifié de façon intentionnelle et de ses modes de reproduction, n'est plus sauvage, pas même un produit de culture. Cette forme d'ostréiculture artificielle a coupé son lien avec l'environnement. Les ostréiculteurs qui élèvent des huîtres triploïdes ont perdu leur indépendance. Ils sont dans l'obligation de passer par des écloseries pour renouveler leurs huîtres. Félicitations d'ailleurs aux mutiliculteurs qui, au regard de la situation dramatique en ostréiculture, ont refusé l'introduction de moules triploïdes sur toutes leurs concessions en France. Mais je reviens de nouveau à nos deux bassins naisseurs, Arcachon et Marennes-Oléron. Ces deux sites majeurs pour la production du naissin naturel ont de ce fait besoin d'être préservés et protégés. Les bassins naisseurs ont un patrimoine génétique et un environnement à sauvegarder. Il faut protéger les souches naturelles de toute agression extérieure. La mise en culture des écloseries vitres d'écloserie représentent une menace pour cet environnement et pour l'intérêt de la filière ostréicole. Leur mise à l'eau se fait encore aujourd'hui sans aucun encadrement ni suivi sanitaire. Et que se passerait-il si les géniteurs, les tétraploïdes de l'Ifremer, se répandaient accidentellement en mer? En une dizaine de générations, cela entraînerait le basculement vers une population exclusivement tétraploïde. Et que se passerait-il si, bien que présumés stériles, les triploïdes étaient quand même capables de se reproduire? Cela entraînerait un risque de stérilisation progressive du milieu et une contamination des stocks d'huîtres naturels. Et que se passerait-il si l'homogénéité génétique d'une essaim constituait un facteur de fragilité vis-à-vis de l'environnement ou des agents pathogènes? Cela entraînerait une dégénérescence par sélection intensive et un danger pour la biodiversité. Et que se passerait-il si l'introduction tout au long de l'année de juvéniles triploïdes dans le milieu provoquait le maintien définitif du virus? Cela entraînerait encore plus la perturbation du cycle naturel de l'huître. Et que se passerait-il si le juvénile confiné, traité aux antibiotiques, disséminait dans le milieu leurs maladies, virus, bactéries, parasites? Cela entraînerait un grand danger et un déséquilibre de l'écosystème. Et que se passerait-il si les écloseurs s'écartaient peu à peu du travail de grossissement dans leurs naissins qui ne trouvent plus d'acheteurs pour élever leurs huîtres en demi-élevage et en marchande? Cela entraînerait une concurrence encore plus déloyale. Et finalement, si nous servons tout simplement de cobayes humains pour cette huître gonflée artificiellement, l'absence de risque pour la santé publique est-elle avérée? On assiste à un manque de vigilance flagrant. Les études sanitaires et environnementales n'existent pas. Le suivi technique pour l'introduction d'une innovation comme l'huître triploïde n'a pas eu lieu. Et pourtant, depuis de ce siècle, aux États-Unis, l'huître est reconnue pour sa place dans l'environnement et les services qu'elle fournit à la restauration de la biodiversité. Par sa capacité biologique à refléter les qualités de l'environnement où elle vit, l'huître est la sentinelle de l'environnement littoral. Je cite Jean-Paul Drainon, directeur station Ifremer, 1994. « Outre son importance économique et sociale indéniable, elle offre aussi l'intérêt d'exiger un milieu sain, suffisamment riche, protégé des agressions humaines et joue donc un rôle précieux de sentinelle. Sans l'ostréiculture, il est probable, que le tributule éteint aurait continué à faire ses ravages dans l'écosystème. » Ceci fait ressortir le lien étroit entre l'huître et son environnement. Ce concept permet de replacer l'huître dans une perspective environnementale et les parties intégrantes de la biodiversité des écosystèmes littoraux. La définition de la durabilité des ostréiculteurs est un des enjeux futurs. Des mortalités importantes sont de nouveau signalées pour des lots d'huîtres marchandes, en particulier les lots d'huîtres triploïdes. La fragilisation des produits des quatre saisons qui font toutes les saisons, sauf celle pour laquelle ils ont été créés à l'origine, c'est-à-dire l'été, est problématique. La situation causée par les problèmes sanitaires et économiques générés par la mise en élevage de ces huîtres est préoccupante sur de multiples points. À proximité des huîtres triploïdes, les naturels ont parfois du mal à se développer. Les centres ostréicoles enregistrant le plus de mortalité sont ceux comprenant une majorité de triploïdes. Les huîtres naturelles sont contaminées par les huîtres triploïdes du voisinage. Les huîtres triploïdes grossissant deux fois plus vite déstabilisent le marché de l'huître. Avec la réduction du temps d'élevage, une course folle à la productivité est entamée. En conséquence, les baisses de prix sont considérables. On joue avec le feu dans cette course aveugle au profit. La disparition également d'entreprises spécialisées dans le captage du naissin pénalise énormément la filière. Et enfin, la délocalisation sur des hectares dans des pays non consommateurs d'huîtres, avec une main-d'œuvre sous-qualifiée, sous-payée, pour ces huîtres qui, de surcroît, engorgent le marché français, quelle aberration socio-économique. Bon, il faut réagir, mais sans suivre le mauvais exemple des agriculteurs qui ont opté pour une culture intensive. Que faut-il faire ? Produire moins pour garantir les prix, en respectant le schéma de structure, en réduisant les densités pour diminuer le nombre d'huîtres à l'hectare, en réglementant la pose des collecteurs, en imposant des quotas d'huîtres triploïdes. Protéger aussi les deux bassins naisseurs en imposant un moratoire sur l'utilisation des huîtres triploïdes. Informer et rassurer les clients en assumant son choix de production et en étiquetant l'huître née en mer ou des closeries. Renforcer le cadre réglementaire également en exigeant plus de transparence, de clarification et de réduction des risques. Le bassin d'Arcachon, 315 entreprises, 8 000 tonnes par an, est finalement assez bon élève. Un moratoire national demandé en 2012 par le CNC sur l'utilisation des huîtres triploïdes a été voté favorablement par les ostréiculteurs et ostréicultrices du bassin d'Arcachon. Récemment, la demande sur l'étiquetage a également été adoptée favorablement à Arcachon. Notre naissin naturel est également en bonne position, moins de mortalité en 2014. La sélection naturelle rendrait-elle notre naissin plus résistant? À confirmer pour 2015. À Arcachon, nous vivons de nouveau une fermeture administrative pour une présence trop importante d'algues dinophysis qui peuvent provoquer des désagréments digestifs chez l'être humain. Une mesure de précaution que la profession subit depuis des années. Pourquoi le principe de précaution ne s'applique pas également à l'introduction de cette huître triploïde? Un manque de vigilance incompréhensible pour la profession malgré la préconisation de mise en place d'un réseau de surveillance. Je viens maintenant à l'étiquetage. Il faut un étiquetage.
Pardon ? Une minute encore.
Il faut un étiquetage pour le consommateur. Nous, ostréiculteurs, ostréicultrices traditionnels et bien d'autres, bien sûr, avons la chance de travailler un produit 100% naturel, non transformé, sans apport de substances artificielles, garanti sans antibiotiques, sûrement parmi les derniers produits 100% naturels qu'on trouve sur le marché. Notre huître est un produit de saison. Elle est différente si elle est consommée maintenant, cet été, en automne ou en hiver. Les goûts aussi sont différents. Certains les préfèrent charnues, d'autres grasses et même laiteuses et d'autres fines et claires. L'attrait pour l'huître, c'est son côté sain et naturel. La triploïde, de qualifier uniforme et en théorie rendue stérile et dodue par manipulation, a aujourd'hui la cote auprès du consommateur ou du restaurateur. Mais pourquoi? Uniquement par ignorance. Promu par certains comme étant le produit le plus exceptionnel, tant en chair qu'en coquille, l'huître triploïde est un produit de consommation manufacturé, standardisé, trafiqué. La forme est égale, tout le temps, le goût sucré, etc. Le taux de chair reste certes remarquable. Mais alors, pourquoi ne pas vouloir l'étiquetage? C'est là la question que je me pose.